Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue sur Média. Si vous venez de nous rejoindre, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous parlerons musique avec M-Star, ou plutôt Marwan, qui revient avec un single, On n'est pas des Gaou, qui fait le buzz, notamment en Côte d'Ivoire. Et on reviendra sur la lancée donc, de ce nouveau son, mais également de cet EP en préparation. Et juste après, nous parlerons cinéma avec le camp de Tiaroé, donc le film d'Ousmane Sambé et de Fatih So, sorti en 88. Et on fête donc ensemble les 100 ans d'Ousmane Sambé, mais également les tristes 80 ans de ce massacre perpétré donc par l'armée française au Sénégal. Et sinon, nous parlerons peinture avec Selma Naguib, elle est galeriste, mais également curatrice donc, de l'événement consacré à Fatna Gbouri, entre tradition et modernité à Casablanca, une exposition à la Villa des Arts qui refermera ses portes le 31 mars. Elle sera avec nous pour nous parler de l'univers de Fatna Gbouri et de cette exposition unique en son genre. C'est avec un énorme plaisir et comme promis, nous recevons encore une fois dans l'Afrique en culture un de nos artistes préférés, Marwan, ou plutôt M-Star, qui revient avec un son qui a connu un succès totalement inattendu, notamment en Côte d'Ivoire. On n'est pas des Gaou, il faut dire que Marwan a une relation toute particulière avec la musique africaine, mais également marocaine, qui je rappelle ont exactement les mêmes origines, les mêmes racines. On en parle tout de suite avec M-Star.
Hier, j'étais à l'UNESCO, ou avant-hier, il me semble que j'étais à l'UNESCO pour la Journée mondiale de la culture africaine, donc j'ai écouté pas mal de musique là-bas, et je trouvais qu'il y avait des ressemblances dans les percussions, dans les rythmes, etc. Donc je pense qu'on a vraiment un point commun dans la musique, on a une musique assez énergique, assez, assez énergique du coup. Et puis, moi, je trouve que voilà, la musique africaine rayonne à travers le monde. Et je pense que c'est vraiment la musique d'aujourd'hui et de demain, la musique africaine.
Et comment tu pouvais, c'est une question parfois un peu compliquée, définir ton univers musical aujourd'hui. Comment tu le vois et maintenant, aujourd'hui, au présent, mais également dans l'avenir, vers quoi tu voudrais qu'il évolue?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de barrière dans la musique. Ça veut dire que ça évoluera comment ça évoluera. En fait, moi, je trouve que j'ai pas. En fait, moi, quand je compose, j'ai pas de barrière. C'est-à-dire que je peux faire une fusion d'une musique indienne avec une musique congolaise, etc. Je trouve juste que les gens commencent à s'ouvrir. Parce qu'avant, les gens étaient un peu fermés, les auditeurs étaient un peu fermés. Là, je trouve que les gens commencent à écouter de la musique africaine, à écouter de la musique indienne. On le ressent dans les chansons, même actuellement en France. On met beaucoup de rythmes congolais, rythmes ivoiriens, etc. Et du coup, comme je te l'ai dit, je pense que vraiment la musique africaine, ça va être c'est la musique d'aujourd'hui, ce sera la musique de demain.
Et comme je le disais tout à l'heure, donc ton single On n'est pas des Gaou qui a connu un énorme succès, notamment sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce morceau et puis le succès également qu'il connaît actuellement?
Le morceau, en fait, je l'ai créé en une soirée. Tout est parti d'un... En fait, j'étais chez moi, tranquillement, un soir. J'avais l'idée de faire un remix de la chanson On n'est pas la chanson de Magic System, Premier Gaou. Oui. J'ai repris la mélodie de guitare que j'ai modifiée un peu. Moi, là-bas, je compose, mais là, pour cette fois-ci, je me suis dit, vu que je veux que ça aille vite, j'ai appelé un compositeur, un ami à moi qui s'appelle Shai Beats. D'ailleurs, je le remercie d'avoir collaboré avec moi sur ce titre. Je lui ai dit, voilà, moi, je te donne ta feuille de route. Je veux que tu pars de cette ligne de guitare, tu me rajoutes ça. Et du coup, en une soirée, j'avais le son, j'ai écrit un refrain, je suis parti au studio, j'ai enregistré le refrain et le pré-refrain, il me semble. Et de là, de base, je suis assez perfectionniste. Donc, de base, je me suis dit, une fois que je sors du studio, je vais faire une petite vidéo professionnelle, bien filmée, etc. Et au final, j'ai fait un TikTok directement au studio. Et j'ai envoyé ça sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, il y avait un bon nombre d'Ivoiriens qui sont venus me suivre. Ça a fait le buzz, ça a créé une trend sur TikTok. Et tout est parti de... En fait, ça a duré 24 heures entre la création du son et la sortie de ce TikTok. Et par la suite, ben voilà, il y a pas mal d'abonnés. Je crois que j'ai eu peut-être 100 000 ou 120 000 abonnés en plus. Il me semble 120 000 abonnés en plus sur TikTok en 2-3 jours. Et après, ben voilà, il y a eu le clip et la sortie du son. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, les gens me félicitent pour ce morceau-là.
Et c'est incroyable quand même, parfois il suffit d'une idée, du bon moment pour eh bien, que tout se déroule comme on le souhaite et voire même ça dépasse nos attentes. Et est-ce que ça t'a donné envie eh bien, peut-être d'explorer d'autres pistes, d'autres chemins musicaux? Et voilà, est-ce qu'il y a une actualité, donc un nouvel EP, un album, qu'est-ce qui se prépare en fait pour toi?
Alors, pour les projets 2025, alors pour rebondir un peu à ta question, moi, j'ai toujours fait la même musique. Pour moi, la musique que je faisais hier, c'est la même musique que je fais aujourd'hui, c'est que je m'ouvre aux autres cultures, je m'intéresse toujours aux musiques ivoiriennes, j'ai écouté de la musique ivoirienne avant même la création de ce son-là, etc. Mais en tout cas, voilà, pour te dire, en 2025, j'ai mon premier EP. Là, je viens de signer dans un label de musique qui s'appelle Just One Records. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu aller en Côte d'Ivoire faire ce magnifique clip, etc. Et donc du coup, premier EP, je veux toujours lancer des trends sur TikTok parce qu'on m'appelle un peu le créateur des trends sur TikTok. J'envoie des fois des... Je m'invente des personnages que je balance sur TikTok et du coup, ça crée un peu le buzz. Donc je veux continuer à essayer d'être de plus en plus actif sur TikTok. Et j'aimerais aussi dire au fait que, donc ça c'est hors musique, que nous avons créé une association avec d'autres jeunes Marocains, une association en fait qui s'appelle Diaspora Avenir. Et donc c'est une association qui promouvoit les jeunes talents de la diaspora. On va mettre en place des ateliers ou des choses pour accompagner du coup les jeunes artistes ou autres, hein, des sportifs, etc. Et on va lancer des projets culturels, économiques, des projets, voilà. On va lancer des projets avec cette association-là. Donc du coup, l'association s'appelle Diaspora Avenir. Le président d'honneur, c'est Ahmed Rayat. Et du coup, voilà, je salue toute l'équipe, Naïma, Adèle, notre président, Smaïn, Amina, Assad. Je veux pas tous les citer parce que là, j'ai pas tous les noms qui me reviennent en tête. Mais en tout cas, voilà, je suis fier de ce projet-là qui va, je pense, faire fureur en 2025.
En tout cas, merci Marwan d'avoir été avec nous. C'est un plaisir à chaque fois que de te recevoir. Et d'ailleurs, pour le plaisir, on écoute. On n'est pas Zegaou. Merci encore.
Merci.
On n'est pas des Gaou, donc le dernier single de N-Star, Marwan, qui a connu un énorme succès. Restez avec nous sur Média dans l'Afrique en culture tout de suite. Eh bien, nous parlons cinéma avec le camp de Tiaro. Et ici, il y a bien un film qui a incarné l'histoire des tirailleurs africain, notamment par le sujet qu'il aborde, c'est bien ce film de Ousmane Sembène et Tierno Fatisso, sorti en 88. Alors ce film raconte l'histoire du massacre de tirailleurs dits entre guillemets sénégalais, tout juste rentrés d'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui furent tués le 1er décembre 44 par l'armée française au camp de Tiaroé à proximité de Dakar pour avoir tout simplement réclamé l'argent qui leur revenait de plein droit. Le centenaire de la naissance d'Ousmane Sembène Ben, donne justement l'occasion de revenir sur ce film culte comme sur les conditions de sa réalisation. Le camp de Tiaroé de Ousmane Sembène, un très beau film de plus de 2h30, d'ailleurs le plus long qui est réalisé Sembène et qui signe eh bien, l'importance qu'il accordait au sujet. Alors si le film raconte le massacre du 1er décembre 1944, il est aussi un portrait collectif de tirailleurs, de gradés de l'armée française comme de la société dakaroise des années 40. Le film est servi par une série d'acteurs français engagés comme Jean-Daniel Simon, membre du Parti communiste français qui joue le rôle du capitaine Raymond, un officier proche de ces soldats africains, lui-même confronté à l'ostracisme des autres officiers. Je rappelle que le film donc fut récompensé d'un prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 88. L'année suivante, Le Camp de Tiaroé obtint un prix au Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, le fameux FESPACO. Pourtant, le film eut très peu d'écho en France. Il a beaucoup souffert de problèmes de distribution, pour ne pas dire de censure, et il ne fut projeté pour la première fois qu'en 98, 10 ans après sa réalisation, dans un cinéma d'art et d'essai de la place Clichy à Paris. Camp de Tiaroé est d'abord, je le rappelle, une peinture du corps des tirailleurs. Les personnages se nomment Niger, Gabon, encore Sahara, ces noms qui symbolisent les différentes places où l'armée française recrutait ses soldats depuis le milieu du 19e siècle. Le camp de Tiaroé avec la Noire 2 sont probablement les œuvres cinématographiques qui abordent le plus frontalement le rapport avec l'ancienne puissance coloniale. Alors si l'on veut comprendre l'histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais, c'est un film qu'il faut voir et revoir d'urgence. Et après avoir parlé cinéma avec Ousmane Samben, je vous propose tout de suite de parler peinture avec Fatna Gbouri. Les œuvres donc majeures de Fatna Gbouri sont à admirer à la Villa des Arts à Casablanca du 21 janvier donc au 31 mars. La Villa des Arts accueille l'univers unique en son genre de Fatna Gbouri entre tradition et modernité. Et cette exposition met en lumière donc la période qui s'étend de 82 à 90 et où l'artiste prend conscience de, tout simplement de son talent inné de peintre. Il faut dire qu'elle s'inscrit dans ce courant particulier dit appelé parfois post-brut pour éviter justement le terme naïf et qui de mieux de, pour nous en parler que Selma Naguib. Elle est galeriste d'art mais également curatrice de cet événement. On l'écoute tout de suite.
Alors, cette période est très importante. C'est une période qui correspond au courant de l'art brut, post-brut, appelé aussi art singulier, qui a été initié par le peintre Dubuffet. Et en fait, c'est véritablement l'art des autodidactes. C'est vraiment le geste spontané, alors qui est quand même très différent de l'art naïf. Et c'est vrai que c'est une période importante parce que, si vous voulez, c'est vraiment les débuts de sa peinture. Et à ce moment-là, elle explore des matières complètement incroyables. On est sur différents supports. Elle utilise aussi le henné sur peau. On est vraiment sur des matériaux complètement différents, des matières différentes. Elle utilise aussi le papier photo, le henné sur papier photo. C'est une période qui est très importante, qui est vraiment crucial parce qu'à partir des années 90, effectivement, sa peinture va changer, encore plus fin des années 90, où on va dire que ce sont des scènes de vie, on va dire, importantes, mais on est dans quelque chose, dans un geste un peu plus, on va dire, rodé, peut-être un peu plus commercial, je dirais. Cette période-là, c'est une période très importante. On sent qu'elle a vraiment pris le temps, en tout cas nécessaire, de réaliser ses œuvres. Et elle lui disait si bien, ses œuvres qu'elle considère comme ses propres enfants. Et elle en avait vraiment du mal à se détacher. Et on le voit dans le geste, on le voit véritablement dans le geste qui est quand même assez particulier à cette période-là. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu véritablement montrer en fait cette époque qui sont les débuts de l'artiste. Et cette période en particulier, c'est une période, je pense, qu'il faut aussi montrer aux futures générations et aux générations actuelles, parce que beaucoup découvraient l'artiste en fait pendant le vernissage pour la première fois. Ils connaissaient l'œuvre de Chaïbia, mais ils ne connaissaient pas son œuvre à elle, parce qu'elle n'a pas eu malheureusement l'occasion de se faire connaître beaucoup à l'international, même si elle a exposé au Moyen-Orient, elle a exposé aussi en Allemagne. Mais elle n'a pas eu la chance de rencontrer ce critique d'art international comme Chaïbia qui va pouvoir lui ouvrir les portes des musées internationaux. Mais en tout cas, elle le mérite. Et c'est la raison pour laquelle, vous allez le voir, en fait, c'est une période très spéciale où on a des scènes de vie très importantes, autant des scènes de vie autour de la céramique, de la poterie, de la tapisserie qu'elle a elle-même... Elle a elle-même réalisé des tapis en fait toute sa vie avant de devenir artiste peintre et de se rendre à sa fille. Mais oui, même au niveau des couleurs, cet aplat de couleurs en fait, cet aplat, cette technique qu'elle utilise qui est très importante, c'est-à-dire que d'un trait véritablement d'un trait, elle réussit à terminer son œuvre, mais avec une finesse, une certaine beauté, une esthétique assez incroyable et en même temps touchante. On retrouve cette authenticité de Fatma dans son travail. Et je parle de modernité parce que les couleurs sont aussi des couleurs éclatantes, éclectiques, vibrantes. Il y a à la fois des scènes de vie complètement authentiques. Et c'est pour ça qu'on est vraiment entre la tradition et la modernité. Cette modernité du Maroc, et ce Maroc à la fois authentique et moderne, Fatma le représente si bien, l'une des premières femmes musulmanes à avoir marqué pour moi autant la peinture marocaine. Pour moi, elle s'est quand même imposée, même si elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant, elle a réussi à s'imposer. C'est une figure majeure. Et c'est important de le souligner.
Voilà. C'est important de le souligner et puis on a l'impression qu'elle a toujours été peintre, même sans jamais peindre. Avant qu'elle commence à peindre, il y a toujours eu ça en elle. Quand on voit ses peintures, on se dit, en fait, quand est-ce qu'elle a commencé? Puis on a l'impression qu'elle a toujours peint peut-être en secret. Il y a quelque chose de magique chez elle. Et je voudrais peut-être avant de nous quitter, Salma, puisque c'est vous qui organisez cette exposition, vous êtes curatrice, selon vous, en tant que femme, en tant que jeune femme, que représente pour vous Fatma Gbourou, qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous en tant que femme marocaine?
Alors moi, c'est une femme qui m'inspire énormément de choses. La vivacité, la modernité, on en a parlé aussi. Et puis, je suis quand même très fière d'être marocaine. Et elle me le rappelle si bien, Fatma. J'aurais tellement voulu la connaître quand j'ai découvert pour la première fois à Marrakech cette exposition. J'ai peut-être eu l'un des plus grands coups de cœur que j'ai eu dans ma vie, vraiment. Les tableaux m'ont laissé sans voix. Et donc, j'ai absolument voulu faire voyager cette exposition à Casablanca pour qu'on la fasse découvrir au public casablancais. J'ai discuté avec le collectionneur qui appartient à la collection. Et j'ai tout de suite... Pour moi, Fatma, c'est cette vivacité, cette beauté, cette modernité, cette authenticité... Elle me rappelle que finalement, elle me rappelle à quel point elle est fière d'être marocaine, elle est fière de ses traditions. Et je pense qu'on se rejoint peut-être dans ce sens, c'est que aujourd'hui on a beaucoup de femmes modernes qui accomplissent de belles choses. Enfin, j'ai choisi l'art et c'est pas évident en tant que femme de s'imposer dans le domaine, en tant que jeune femme. D'être galeriste et curatrice au Maroc, c'est pas évident, mais elle me donne envie de me battre. Elle me donne envie de me battre quand je vois qu'à 58 ans ou à 59 ans, elle décide de prendre pour la première fois un pinceau et elle arrive à réaliser ce qu'elle nous dévoile. Je me dis que tout est possible. Et donc, elle me donne un certain élan, elle me donne une force. Je vois beaucoup de force aussi chez Fatma.
Donc, voilà. À la rencontre de Fatma Gbourou à Casablanca, entre tradition et modernité. Merci beaucoup, Salma, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.
Merci infiniment. Merci.
Merci, bonne journée.
Également, au revoir.
Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, après avoir parlé cinéma, musique, eh bien nous parlons tout de suite littérature avec le Flamme. Avec plus de 40 écrivains et penseurs du continent et de sa diaspora qui étaient attendus pour cet événement qui accorde cette année une attention particulière aux voix féminines africaines fondées par Mahi Binbin, Fatima Tawain, Hanan Saadi et Younous Ajraï. Le Flamme, donc le festival du livre africain de Marrakech, propose encore une fois cette année une année riche mêlant entre autres cafés littéraires, débats, signatures, expositions, spectacles et projections. Le 30 janvier, le Flamme s'ouvrait avec la voix de l'écrivaine mauricienne Ananda Devi. Quant à la soirée de clôture prévue ce dimanche, c'est Marc Alexandro Bombé, le slammer, qui prendra la parole. Cette année, le festival met l'accent sur les voix féminines à travers des débats, des lectures et des expositions. Le but est de souligner le rôle fondamental des femmes dans la société africaine actuelle. D'ailleurs, l'écrivaine guadeloupéenne Jennifer Richard, lors d'une table ronde, a déclaré « En Afrique et ailleurs, les femmes sont porteuses de mémoire. Ce festival leur permet avant tout d'avoir les places qu'elles méritent. » Et qui de mieux pour nous en parler que le délégué général du Flamme, M. Younous Ajraï.
Cette troisième édition se présente un petit peu comme une édition de confirmation de notre jeune festival, puisque nous n'avons que 3 ans. La première édition a été vraiment... quelque chose d'extrêmement fort. Et on nous attendait au tournant, bien évidemment, pendant la deuxième édition. Je pense que ça a été une édition de consolidation, effectivement, et où on a eu une très, très belle édition également. Et puis là, je pense qu'on commence un petit peu à vieillir, si j'ose dire, puisque c'est la troisième édition. Et donc, on a veillé à ce que ce soit une véritable édition de confirmation.
C'était donc Younes Ajaray, le délégué général du FLAM, qui refermera ses portes ce dimanche. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité et de votre écoute. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est toujours à écouter en avant-première sur Média Podcast. Pour l'heure, un petit Réma, Calm Down, ça faisait longtemps. Très bonne écoute à tous et très bonne suite des programmes sur Média.
You say